8h08, on est dans la troisième heure de Rage Against le matin, boulevard 102.1, on passe encore quelques heures avec vous, bon jeudi matin. Merci d'être là, comment ça se passe dans votre routine matinale, vous, que ce soit le trafic, que ce soit le déjeuner, que ce soit laisser les enfants à la garderie, pas toujours facile, tout le monde passe par là avec de jeunes enfants, ça a été le cas de... Alexandra Bernier, qui est avec nous, qui n'était pas venue nous voir depuis un petit bout, quand même, bien content que tu sois là, directrice affaires publiques nationales, relations publiques. Pas facile ce matin, laisser les tout-petits à la garderie, Alexandra?
Ça arrive, hein? Ouais. Il y a des matins ça. Où ça se passe comme du beurre sur une toast, puis il y a d'autres matins que hein, le bol de céréales revole partout.
Ouais, ouais, puis c'est ce genre de matin. Puis t'es à côté, là, je veux dire, littéralement... T'as deux enfants?
Oui.
Deux. Et les enfants sont à la garderie ici, là, pas loin dans Baptiste.
Moi, j'ai pas reçu le mémo qui dit qu'avoir des enfants back à back, c'est peut-être périlleux. C'est peut-être pas évident tout le temps.
C'est quoi la différence d'âge?
Ah, 18 mois.
Oh, OK, oui.
Ouais, c'est ça. Donc, moi, dormir, c'est vraiment quelque chose qui est optionnel chez moi. Mais c'est bien le fun, c'est une belle période. Mais c'est ça. Il y a des matins plus difficiles que d'autres, mais je suis contente de vous revoir, les garçons.
Yes. Ben oui, content que tu sois là, parce qu'on a tellement de... Que ce soit... quelques dossiers à régler avec toi. Que ce soit la visite du premier ministre français, pour ça, on y reviendra, que ce soit la relation entre le fédéral et le provincial, ou que ce soit hier, commençons-le. Là, témoignage de notre premier ministre Justin Trudeau devant la commission qui enquête sur l'ingérence étrangère. On parle des élections 2019-2021 au Canada. T'as pensé quoi du témoignage hier de Justin Trudeau?
Bien, la réalité, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose à chaque témoignage. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas évident. C'est certain que ça, là, c'est le gros défi de cette commission d'enquête-là. Tu sais, c'est pas évident de pouvoir mettre des mots... dans les témoignages pour une situation aussi difficile avec des enjeux aussi grands au niveau de la sécurité. C'est ça le gros défi quand tu vas témoigner là-bas. Tu veux t'assurer d'être en mesure d'expliquer avec beaucoup de nuances sans mettre en péril la sécurité nationale.
Ouais. À quel point tu peux être honnête d'abord?
Bien, je pense pas que c'est... On parle pas d'honnêteté ou non. Ouais. Je pense que hier il y a quand même un message fort où le premier ministre, il y a plusieurs choses à faire, là. Il y a plusieurs annonces au courant des derniers jours, machin et tout. Et il accepte d'aller s'asseoir dans cette chaise, dans ce hot seat-là. Ouais. Pour aller témoigner sans pouvoir vraiment précisément dire le fond de sa pensée. Là, on le voyait là, qu'il était comme au bout de sa chaise là, à vouloir en dire plus. Mais la réalité, c'est qu'il donne un message clair pour dire qu'il a à cœur la santé de notre démocratie, que c'est quelque chose qu'il suit, c'est quelque chose qu'il suit vraiment depuis comme... 2016, 2017, tu sais, 2016, l'élection américaine, 2017, l'élection française, il en a mentionné hier. Puis, tu sais, c'est pas évident pour lui de pouvoir comme vraiment donner son heure juste. Il y a quelque chose que je veux qu'on porte à l'attention, tu sais. Le point, c'est que il nous parle hier, puis, tu sais, il nous parle d'intelligence, pardon. Donc, tu sais, faut faire la différence entre des faits puis de l'intelligence. Ouais. Lorsqu'il dit qu'il va aller chercher de l'intelligence, là, c'est aller chercher, exemple, des rumeurs, exemple, des écoutes électroniques qui auraient pu être commandées. T'sais. C'est aller prendre plusieurs aspects qui ne sont pas des faits et d'aller les analyser. T'sais. Alors, pour prendre une décision éclairée, ils doivent avoir tous ces aspects-là en considération, tu sais, parce qu'ils ne peuvent pas uniquement se baser sur les faits, ils doivent aussi prendre en considération qu'est-ce qu'ils ont entendu de part...
Qu'est-ce qu'ils disent en coulisses?
Ben c'est ça,
qu'est-ce qu'ils disent entre les lignes, lire entre les
puis
lignes?
Puis à travers tout le monde entier, de par toutes les ambassades, puis de part, tu sais, la réalité, là, j'ai été au bureau du premier ministre, puis il y a un certain moment donné où au bureau du PM... on n'avait plus le droit d'assister à aucune rencontre avec nos téléphones cellulaires. On devait les barrer dans des lockers
vous êtes
avant
une,
d'entrer.
Vous êtes une classe d'école un peu partout au Québec.
Ouais, exactement. Puis on sortait et on disait « Peux-tu avoir notre cellulaire, s'il vous plaît? » Mais ça a été vraiment une réalité. Puis c'est la même affaire quand tu te promènes dans les ambassades canadiennes. il y a des endroits sécurisés où tu n'as pas le droit de te promener avec ton téléphone cellulaire.
Okay. Donc, tu sais,
ça existe. Dans le fond, hier, là, ils nous ont dit, hey, ça existe, on suit le dossier, ouais, mais on ne peut pas vous en dire plus.
Ouais. Deux choses, moi, que j'ai retenues du témoignage de Justin Trudeau. La première, est-ce que son alibi est la bonne quand il disait, écoutez, nos relations anyway, avec Pékin n'étaient pas bonnes en 2019 et en 2021 parce que il y avait deux personnes, des siens arbitraires emprisonnés, deux citoyens. Puis également, est-ce qu'il fait preuve un peu de laxisme pareil quand il dit « Hey, moi, je lis pas toutes les notes là, qui me sont envoyées. »
Moi, ça, je pense que c'est pas tout à fait vrai. La réalité, c'est que je suis persuadée qu'il suit le dossier comme vraiment de fond en comble.
Ouais, d'ultra comme... près, là.
Oui, c'est ça, tu sais. Puis c'est pas pour rien qu'en début de témoignage, il a commencé en disant « Hey, moi, quand je suis arrivée en poste, je me suis assurée de remettre les bases pour tout le volet industrie, tu sais, parce qu'il y a le volet politique, qui sont les relations un petit peu plus ouais, difficiles et tendues selon les enjeux. Et il y a tout le volet industriel là, qui ne doit pas être mis de côté, tu sais. Puis c'est pour ça que d'entrée de jeu, nous s'est mis à nous parler là, du canola, qui était là, pour lui un gros enjeu au début. Donc, c'est sûr que moi, je après ce témoignage-là, tu sais, la réalité, c'est que je pense vraiment que Justin Trudeau tient en grand niveau l'enjeu de l'ingérence, mais qu'il n'est vraiment pas en mesure de nous en dire plus, tu sais, okay, pour des enjeux de sécurité nationale.
À quel point il y a une game politique qui se joue quand tu vas devant une commission comme ça? Parce que clairement, tu n'as pas le choix d'en jouer une dans une certaine mesure. Là, on a vu Erin O'Toole qui lui a un peu mis quasiment la faute de sa défaite aux dernières élections en disant hey, « je dois avoir perdu au moins 9 sièges à cause de l'ingérence ». Justin Trudeau qui dit que c'est pas vrai pantoute, puis là, on le sait-tu pas, je sais pas. Là. Mais tu n'as quand même pas le choix en tant que ce soit de ministre ou même Justin Trudeau d'avoir ça en arrière de la tête, de tout ce que je peux dire peut me faire très mal dans les sondages.
Complètement. Mais tu sais, la réalité, là, c'est que la game politique, là, le message hier, c'est d'aller prendre le premier ministre du Canada puis d'aller l'asseoir dans une chaise pendant 2h30 de temps en témoignage qui n'était pas en mesure de vraiment en dire beaucoup plus, tu sais, comme davantage. Et la réalité, c'est que 2h30 de temps dans un agenda de premier ministre, c'est beaucoup. Fait qu'ils ont quand même pris ce temps-là pour leur dire « Hey, c'est tellement important pour nous autres, on n'est pas les méchants, puis la réalité, c'est qu'on veut vraiment... » pouvoir vous en dire plus, mais on n'est pas en mesure de le dire pour des sécurités nationales. Donc, tu sais, la game politique est là. Ils ont pris la tête directement du premier ministre, ils l'ont assis, puis ils ont dit « Hey, on est prêt à faire face okay, à parade. »
Ouais. On parle avec Alexandra Bernier, qui est directrice Affaires publiques nationales, relations publiques. Continuons avec la game politique. Parlons du fameux budget fédéral qui s'en vient. Mais comment tu trouves, toi, la stratégie de communication du gouvernement de faire toutes ces annonces-là, semaine après semaine, voire presque jour après jour, avant la présentation du budget?
Honnête, je suis fâchée de ne pas avoir eu l'idée.
Ah ouais, hey, ça se passait pas de même dans ton temps?
Ben non, habituellement. Sérieux, là, comment ça se passait dans le temps? Là? On annonce le budget, puis exemple, les équipes d'opération s'en vont sur le terrain pendant comme 2-3 semaines après l'annonce du budget ouais, pour faire les échos du budget. Mais la réalité, là, c'est qu'il y avait le dépôt du budget, puis même le soir même, puis le matin suivant le budget, c'était toutes les oppositions qui sortaient pour dire qu'il y avait une coupure en ci, il y avait une ouais, coupure en ça, il n'y avait pas à annoncer dans cette orientation-là. Donc, ils étaient toujours en mode réactif. Et hey, là, ils ont pris le contrôle de l'agenda. C'est impressionnant. Puis à travers tout le pays, là, je veux dire, à toutes les fois... qu'il y a une annonce, tu sais, pour vous, là, comme d'un volet média, on voit l'avis média là, qui est lancé en fin de journée. Oui. Et là, on peut savoir à peu près dans quelle région, puis ça va être quoi environ le titre. Mais c'est très, très nuancé, là. C'est très, très nuancé. Donc, à tous les jours, les journalistes sont au bout de leurs lèvres pour savoir ça va être quoi l'orientation qui sera annoncée, parce que c'est carrément un scoop qui va se retrouver dans le budget de la semaine prochaine. Donc, non, bravo, tu sais, ils occupent l'agenda public, puis la réalité, c'est qu'ils sont incapables en ce moment de prendre toute l'attention, ce qu'ils n'étaient plus capables de faire depuis plusieurs semaines, plusieurs mois.
C'est vrai qu'on n'entend plus parler de Pierre Poilievre présentement.
Ben, tu sais, puis Poilievre, M. Poilievre, il se retrouve un peu les épaules au mur où il est obligé de se faire dicter son agenda politique au jour le jour.
J'aurais pas besoin. Je vais être obligé de parler de ça. J'aurais pas le choix de parler de ça. Il réagit lui aussi aux annonces.
Tu sais, la journée là, de l'annonce de la sécurité alimentaire pour le Club des petits déjeuners du Canada, cette journée-là, peut-être qu'il n'avait pas nécessairement envie de parler, lui, de financement pour la sécurité alimentaire des enfants. Mais la réalité, c'est qu'il est obligé là, de dire « Vous, allez-vous être pauvre, oui ou non, ou ça va être des crédits d'impôt? » Donc, il se fait dicter son agenda. Ouais. Moi, être la directrice des opérations de Pierre Poilievre, je hurlerais en ce moment.
Il y a la politique provinciale également qui se fait dicter son agenda par ça. En grande partie, François Legault et la CAQ, puis il y a le fameux dossier de l'immigration. Mm-hmm. Et là, on parle d'un référendum sectoriel. Est-ce que c'est une bonne stratégie de communication de la part de la CAQ? Parce que nécessairement, quand on parle de référendum, on réfère au PQ. Mais... c'est le PQ présentement qui est en avance dans les sondages. Fait que moi, j'ai été étonné qu'on en arrive là.
Moi aussi. On a vu cette annonce-là, puis j'ai été la première surprise à voir le premier ministre utiliser ce terme-là aussi rapidement. La réalité, c'est que... la stratégie est bonne. Ils veulent retourner ça pour aller questionner la population sur est-ce que c'est bon, oui ou non. Mais ça revient à la base que Justin Trudeau est en train d'occuper et de gérer les agendas politiques de tout le monde à travers le pays en ce moment et que là, il est en train de pelleter. Il est en train de pelleter avec, selon ses orientations qu'il va avoir vraiment mis, puis il est en train de nous décaler et feuiller à tous les jours dans l'actualité. Il est en train de pelleter dans la cour des villes et des provinces les orientations que lui, il a décidées avec quand même des grosses enveloppes budgétaires. La population en ce moment qui écoute ça, qui se dit « Hey, moi, je trouve ça fantastique qu'ils veulent investir dans les logements. » On n'en a plus. Mmh. On veut avoir justement des actions concrètes. On est en train de leur donner les moyens des ambitions. Pourquoi ils sont fâchés?
Non. Même les politiciens municipaux, Claude Villeneuve, qui est un ancien du PQ, ouvre les bras à ça ici dans la ville de Québec.
Ils se retrouvent à justement aller approcher directement les maires des villes qui se retrouvent actuellement sans ressources, sans ressources financières, puis qu'ils crient là, haut et fort depuis plusieurs mois.
Ouais.
Et là, Justin Trudeau est en train de leur dire « Écoutez, moi, je vous donne le moyen des ambitions, puis on va faire des ententes avec chacune des provinces. » Je comprends M. Legault qui est en mode réactif et sa stratégie de vouloir aller questionner la population. Ça reste à voir qu'est-ce que la population va vouloir y répondre. Puis moi, ce qui m'a accroché, c'est son ouverture à tenir ce référendum-là sur d'autres sujets aussi. Je pense que ça va être un bon point de questionnement.
Ouais.
Quelle sorte de sujet est-ce que vous voulez couvrir, M. Legault, là-dessus? Donc, bien intéressant.
Hey, Alexandra Bernier, j'aimerais qu'on termine la discussion d'aujourd'hui en parlant de la visite du premier ministre français, Gabriel Attal, aujourd'hui, ici à Québec. En 2024, question en deux petites parties, ça a quelle valeur une visite d'un premier ministre français pour le gouvernement? Puis ça a quelle valeur la visite d'un premier ministre français pour la population en 2024?
Moi, là, j'ai envie de dire, il était temps.
Je pense que
M. Legault, honnête, là, peut-être là, ce matin, je devrais parfaire là, mes recherches, mais de mémoire, il n'y a pas eu de rencontre officielle depuis le G7 ici au Québec. Là. Pour une nation qui a des relations directes et privilégiées avec le gouvernement français, c'était le moment tout inscrit pour sa visite. Je comprends qu'il y a eu plusieurs enjeux au niveau de la France. C'est pour ça que ça n'a pas été possible. Puis, il y a eu de très courts mandats des anciens premiers ministres français. M. Legault, aujourd'hui, va avoir tout honneur de recevoir justement le chef de gouvernement français pour pouvoir parler et parfaire ses relations de proximité. Tu sais, les relations de proximité avec le Québec, c'est aussi précis que tout enjeu relié à la culture. Tout enjeu relié à l'enseignement. C'est pour ça qu'il y a une de ses ministres là, dans la délégation du premier ministre français, c'est la ministre de l'éducation supérieure. Et l'autre gros enjeu qui tient immensément à cœur François Legault, c'est la francophonie. Donc, non, honnêtement, c'est vraiment super. Puis, tu sais, bon, hier, le premier ministre français est arrivé à Ottawa, a été reçu et a eu plusieurs échanges là, avec le gouvernement de Justin Trudeau aussi. Puis, l'échange convivial et de proximité, tu sais, c'est pas juste deux amis qui se rencontrent. On voit qu'il y a réellement des sentiments de réciprocité et des sentiments de vouloir développer pour poursuivre les bonnes relations. C'est certain qu'il faut qu'on parle quand même des enjeux de libre-échange qui ont été remis un petit peu en doute.
Ouais.
Je veux dire, c'est la semaine passée que la Chambre a voté contre pour l'entente, pour le CETA. Tu sais, c'est pas évident de s'y démêler. Ça reste que c'est beaucoup plus grand lorsqu'ils votent contre, considérant le fait qu'il y a les enjeux d'agriculture là-bas, qui sont des gros enjeux qui ont à cœur pour, justement, tout le secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Et, tu sais, c'est pas évident pour un gouvernement français qui débarque ici au Québec, puis que nous, on les accueille en disant « Oui, salut, on est super heureux de vous recevoir, mais, ouais, parlons un petit peu de nos accords de libre-échange.
Ouais. » Oh, oui.
Salut! Donc, c'est une visite, tu sais, j'en ai organisé plusieurs sur le terrain. Je pense à mes collègues du ministère des Affaires étrangères ou du ministère des Affaires étrangères à Ottawa qui ne dorment pas beaucoup depuis plusieurs jours.
Fait qu'une visite importante pour le gouvernement. Mais là, pour la deuxième partie de ma question, en 2024, ça a-tu le même impact qu'un haut placé français débarque à Québec pour la population que ça l'était, v'là, je sais pas, v'là 10, 15, 20, 25, voire 50 années? Là?
Ben c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais... Prenons en considération qu'en ce moment, au niveau de la cote de crédit du gouvernement canadien, on a la meilleure cote de crédit du G7. Là. Donc, les investissements étrangers ont envie de venir. Ben, et selon l'OCDE, on est au troisième rang en ce moment en investissements étrangers après le Brésil puis les États-Unis. Donc, on est à un endroit de prédilection pour des investisseurs étrangers. Donc, je pense que ça donne un signal fort au niveau du développement économique.
J'aime ça. Oui. Alexandra Bernier, directrice Affaires publiques chez National Relations publiques. Merci beaucoup pour ça.
Hey!
Tu repasses nous voir bientôt.
Je reviens bientôt, les amis.
Cool. Fall Out Boy, My Songs Know What You Did in the Dark pour vous à Boulevard Saint-Laurent.